du son.
L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère, avec toujours en cette 9e saison les invités du LEM. Alors le mardi, souvent c'est science. Aujourd'hui, la science est à la plage avec un invité qu'on a déjà reçu en tant que bénévole de Bretagne Vivante. Et on va même s'enfoncer un peu plus profondément que la plage. Il nous avait présenté quelques-unes des figures de l'estran, des vers qui vivent dans le sable mouillé entre la marée haute et la marée basse. Il avait tellement à nous raconter qu'on l'a réinvité, car son métier, c'est aussi de la science, et plus précisément la taxonomie. Il travaille pour l'IFREMER, au laboratoire dynamique des écosystèmes côtiers d'INECO. Donc il est ingénieur de recherche, taxonomiste de la faune benthique, taxonomiste naturaliste. Ça fait beaucoup de mots magiques, Gavin Droual. Bonjour.
En effet, bonjour.
alors la taxonomie déjà, qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, la taxonomie, en prenant étymologiquement le mot, donc taxis, ça vient du grec taxis, donc arrangement, nomia, la méthode. En fait, c'est la taxonomie, c'est la branche de la biologie dédiée à la classification des entités du vivant. Si on cherche bien, il y a plusieurs définitions, parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur comment définir certaines disciplines, mais communément, c'est en fait la branche qui définit la discipline scientifique qui nomme, définit et classifie les organismes vivants basés sur des caractéristiques morphologiques et ou génétiques qui sont partagées entre eux, afin d'organiser des catégories et en gros pour donner l'arbre du vivant.
Il s'agit de ranger. Voilà.
Exactement. Et je vais m'expliquer un peu plus, c'est qu'en fait l'arbre du vivant, ça correspond un peu à des tiroirs avec différents noms et prénoms. En fait, les espèces, elles sont nommées par un genre, par un nom de genre et un nom d'espèce. Un peu comme moi je suis Gabin, c'est mon nom d'espèce, comme si c'était mon nom d'espèce, et Droual, comme si c'était mon nom. Mais en fait, en réalité, je suis Homo sapiens, mon nom de genre et mon nom d'espèce. Et en fait, l'arbre du vivant, il est hiérarchisé comme ça, par branches, comme les branches d'un arbre, comme l'arbre généalogique qu'on a, sauf qu'en fait, les branches supérieures, ce ne sont pas nos proches parents, donc nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, mais en fait des lignées évolutives. En fait, les branches, c'est des ancêtres en commun pour chacune des espèces.
Oui, après, je crois qu'il y a plein de... Enfin, les tiroirs de tiroirs de tiroirs, c'est ça. Enfin, je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle des clades, des choses comme ça.
Exactement. En fait, il y a des tiroirs très grands, ouais, tout au début, ouais, de l'arbre, dans lesquels... C'est un peu comme des poupées gigognes, en fait. Il y a des très grands tiroirs, donc par exemple le règne animal. Ensuite, des tiroirs un peu plus petits, dans lesquels on va trouver, par exemple, les poissons. Au sein des poissons, il va y avoir des ordres, des classes. Puis ensuite, plus on affine, il va y avoir des familles. Et dans ces familles, des genres. Dans ces genres, des espèces, etc.
Et donc, quand on dit que le règne, enfin, les champignons sont plus proches des humains que des plantes, enfin, c'est parce qu'ils sont pas dans le règne animal, mais pas loin, quoi. C'est ça, en fait.
En fait, c'est une question de proximité avec un ancêtre commun. Chaque branche, on va ranger en fait l'arbre du vivant en fonction de critères morphologiques et ou génétiques, donc en fonction de leur proximité. Donc si un ancêtre commun, par exemple entre nous et les singes, il y avait quelque chose en commun qui s'est divisé en plusieurs espèces, et ben c'est cet ancêtre-là qui est à l'initiative de la division de la branche.
Et alors, on décrit les espèces, on classe les animaux notamment en fonction de caractéristiques morphologiques et ou génétiques. Qu'est-ce que ça veut dire ce « et ou » ? Ça veut dire qu'on fait les deux ? Ça veut dire qu'on pas toujours
ou... Ouais, on fait les deux. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est qu'en fait, par exemple, si on prend uniquement la génétique, qu'on fait de l'ADN environnemental, donc ça veut dire prendre, par exemple, en milieu marin, prendre de l'eau, séquencer avec des amorces spécifiques, par exemple les annélides polychètes, on va avoir...
Qui sont des vers. Hein,
qui sont des vers, voilà. Mais on va peut-être
on va y
en
revenir,
parler.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et en fait, on va obtenir plusieurs séquences. Donc en fait, c'est un agencement de choses. Donc c'est l'ADN, en fait. On va séquencer l'ADN. Et ça, on va les faire analyser toutes ces séquences dans des grandes bases de données. Sauf que comme on ne connaît pas toute la biodiversité sur Terre, eh ben, on ne peut pas assigner à chacune des séquences obtenues, un nom. Donc ça, c'est quand même un petit problème. Mais oui. On peut quand même refaire l'arbre du vivant grâce à ces séquences-là. Et en couplant ça, on a la morphologie. Donc là, c'est un peu différent parce que du coup, on va utiliser des groupes de critères morphologiques diagnostiques, donc qui nous permettent une identification, pour ranger au plus proche des autres espèces. C'est toute l'espèce qui va être décrite, par exemple. On va la mettre dans le bon tiroir, et le fait de la mettre dans un tiroir va nous donner en fait toute sa généalogie, en gros.
Alors ça paraît énorme comme travail.
Oui.
Et en fait, on ne connaît pas toutes les espèces. Hein.
Non, loin de là. Voilà. Loin de là. Ouais. En fait, les scénarios les plus progressionneux disent qu'on a décrit à peu près 50% de la biodiversité. Alors, on ne sait pas trop, en fait, le nombre d'espèces exactes. Ce qu'on sait, c'est qu'on est à peu près à 2 millions d'espèces décrites dans le monde. Il en reste bien plus à décrire. Donc, la description se fait par des taxonomistes, des spécialistes, dans certains groupes, soit zoologiques ou de botanique. Hein. Et donc, ils sont souvent spécialisés par famille. Et en fait, ils ont une vision globale, vraiment mondiale, de tous les genres et toutes les espèces qui constituent cette famille-là. Et donc, c'est des personnes qui travaillent majoritairement dans des muséums, hein, par exemple, dans des muséums nationaux, et qui sont à même, en analysant un peu finement hein, quand même, hein, mais qui sont vraiment à même de dire, OK, ça, c'est une nouvelle espèce, ça ne l'est pas, en utilisant ou pas hein, les outils génétiques.
Oui, voilà. Donc ça, c'est les taxonomistes hyper spécialisés. Ouais. C'est pas votre cas. Enfin, vous êtes donc quand même spécialisé dans la faune. Déjà, c'est pas les plantes, c'est pas votre truc, c'est ça.
Non, non. On peut pas tout faire.
Mais ouais. Et en plus d'un certain milieu de la zone benthique.
Exactement, hein, exactement. Alors le benthos, en fait, du coup, c'est tout ce qui vit sur le fond. Et donc en effet, à l'Ifremer, je suis taxonomiste et je rajoute justement derrière naturaliste. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, dans le cadre des projets de recherche dans lesquels je suis impliqué, j'identifie l'ensemble des groupes zoologiques. Mais
j'ai généraliste, même... en fait, on
voilà,
pourrait dire.
C'est assez généraliste, mais généraliste sur une catégorie de faune. C'est-à-dire que c'est de la macrofaune que j'identifie. Donc, ce sont des bêtes qui mesurent entre 1 mm et 5 cm, à peu près.
Pas non ouais. plus énorme. Hein.
Exactement. Donc, j'ai besoin d'une lobe binoculaire, d'un microscope. Parce que pour beaucoup d'espèces, il faut regarder des critères qui sont très, très, très fins, très petits. Donc, ça peut être sur des puces de mer, il faut aller chercher les pièces buccales. Et des fois, ce n'est pas juste la première, c'est la toute dernière au fond de la bouche. Chez les vers, ça peut être regarder des soies. Donc ça, on ne les voit pas juste avec une lobe binoculaire, il faut regarder au microscope, etc.
Et comment est-ce qu'on devient comme ça taxonomiste ?
En regardant des bêtes.
Ouais.
En fait, ça vient déjà d'avoir une certaine fibre naturaliste. En fait, à la fac, on nous apprend à différencier les grands groupes zoologiques. On nous apprend la diversité, mais au sens vraiment très large. Ce qui est important hein, pour savoir différencier, par exemple, un crabe d'une moule, etc. Mais ensuite, in fine... au gré des expériences professionnelles, au gré des projets, mon côté naturaliste s'est développé, s'est affiné. Et donc, j'ai voulu continuer à identifier, parce que j'aime ça, en fait. J'aime créer des listes de biodiversité, j'aime regarder ces animaux et le challenge de les identifier. Et l'étape encore supérieure, c'est qu'à force d'en voir, et de passer des mois, des années, et de voir des milliers, des centaines de milliers d'animaux, donc il y a l'intérêt scientifique pour des projets de recherche sur les réseaux trophiques, etc. Mais il y a aussi l'intérêt purement naturaliste, c'est-à-dire de détecter des espèces non indigènes qui peuvent poser des problèmes, hein, qui peuvent devenir invasives, mais aussi de décrire des nouvelles espèces. Et donc là, c'est juste une amélioration de la connaissance pour le monde. Et donc c'est ce qui est très important, notamment quand on parle d'érosion de la biodiversité.
Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas vraiment de diplôme ou de formation de taxonomiste, en fait.
Enfin... Non, en fait, ça vient au gré... dans mon cas, c'est venu au gré des contrats et des expériences
donc,
professionnelles.
Même, ouais.
Voilà.
Donc, dans le contrat, c'était quand même marqué identification des espèces.
Oui, oui. C'est ça, exactement, ouais. Exactement. Après, il y a des formations un peu plus spécialisées que d'autres. Il y a des masters, par exemple, de biologie marine qui vont axer certains cours sur de la phylogénie, d'autres sur un côté un peu plus naturaliste. Mais, mais il n'y a pas de formation à proprement parler pour devenir taxonomiste. En fait, on peut apprendre des techniques, il y a des formations continues au muséum ou dans d'autres universités, des workshops, etc. Mais en fait, on ne peut pas apprendre non plus à des étudiants d'être, ok, toi tu vas être spécialiste dans tel groupe, etc. En fait, ça dépend des affinités.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, vous faites entre taxonomistes, vous faites des séminaires, enfin des ateliers là, d'entraînement, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, parce qu'on n'est pas non plus si nombreux que ça. Allez, on doit être une trentaine en tout.
En France ?
Ouais.
Ah ouais, c'est vraiment peu.
Et oui.
Ah ouais.
Mais ça a un avantage, c'est qu'on se connaît tous. On est organisé au sein d'un service national d'observation qui s'appelle BINTOPS. Et en fait, dans ce service national...
Ah oui, en fait, vous êtes taxonomiste du BINTIC. Vous êtes que 30, mais spécialisé dans le BINTIC.
Ouais, c'est ça.
Ah oui,
c'est ça. D'accord. Après, il y en a beaucoup plus.
Oui.
Hein,
ah oui, d'accord.
Si on rajoute l'entomologie, l'ornithologie, la mammalogie,
donc, pour ce qui concerne votre domaine sous la mer, vous êtes 30.
C'est ça, c'est ça. Et donc, parmi ces 30-là, on s'organise pour faire des exercices d'intercalibration, on partage les données, on partage nos connaissances, parce que certains vont être plus à l'aise sur des crustacés, d'autres plus à l'aise sur des annélides polychètes, etc. Donc voilà, c'est l'occasion de s'échanger, parce qu'on est répartis partout sur le littoral français. Donc en fait, au quotidien, on ne se côtoie pas. Donc on a besoin, en fait, de se regrouper. Ouais.
Il faut ramasser les bêtes pour pouvoir les étudier. J'imagine que vous n'êtes pas avec votre binoculaire au fond de la mer.
Et non. Alors, en effet, il faut les ramasser. Donc là, il y a plusieurs techniques. Ça dépend des projets de recherche. Hein. Soit on utilise des engins très faciles à mettre. C'est des carottiers. Donc ça, c'est simplement un tube de PVC d'une certaine superficie. Hein. Et du coup, on échantillonne comme ça le sédiment en plantant ce carottier dans le sable sur une profondeur de 20-30 cm. On récupère. On tamise sur du 1 mm, parce que ce qu'on veut, nous, la macrofaune, ça va de 1 mm à 5 cm. Donc, on utilise un tamis d'une maille de 1 mm. On trie. Donc, ça veut dire que dans notre tamis, le refus du tamis, c'est un mélange de bêtes et de sédiments. Donc, on passe quand même beaucoup de temps à trier, à sortir
les cailloux.
Voilà, c'est ça, à sortir les animaux. Et ensuite, on passe encore plus de temps à justement mettre un nom sur tous ces organismes pour créer les listes de biodiversité qui sont par la suite analysées et donc analysées à diverses fins. Donc ça va être par exemple l'analyse des réseaux trophiques, qui mange qui. Ça peut être aussi l'élaboration d'indices de bon état écologique des masses d'eau, parce qu'en fait certaines bêtes sont polio-sensibles, d'autres sont polio-tolérantes. Donc en fonction de ce qu'on trouve et en plus de d'autres paramètres environnementaux qu'on prend sur le terrain, on va pouvoir savoir s'il y a eu une pollution ou pas, etc.
Ouais, si vous revenez toujours au même endroit, vous pouvez voir les évolutions. Quoi.
Exactement. En fait, il y a les deux types de projets de recherche. Il y a des, entre guillemets, des projets one shot. Donc, on y va une seule fois pour, c'est de la prospection. Il y a aussi des projets de recherche où ça va être un suivi saisonnier. Donc, on va y aller peut-être quatre fois dans l'année. D'autres projets de recherche, comme dans le cadre de thèse où on va faire un suivi de deux ans, mais il y en a d'autres où c'est des suivis sur le long terme. Et justement, dans le cadre de ce service national d'observation BINTOPS, en fait, il y a des stations qui sont suivies depuis 30, voire 40 ans. Et donc là, on y va deux fois par an. Et donc, ça permet vraiment de suivre cette diversité et notamment de comment est-ce qu'elle évolue. En fait, si on regarde bien, ça commence à être intéressant au bout de 20 ans et plus, parce qu'on arrive vraiment à voir si l'environnement, enfin, si les cycles, s'il y a des cycles dans la variation des communautés du BINTOS, et si jamais il y a un impact, combien de temps est-ce que les communautés vont mettre pour être résilientes ou pas.
Voilà. Et donc vous, c'est à quel endroit vous examinez le fond marin?
Alors, avec mes collègues de l'Institut universitaire européen de la mer, là, à Plouzané, on suit un site au niveau de Camaret. Autrement, dans le cadre de mes projets de recherche, on a un site de suivi dans le port aussi, sur une digue, où il y a des flaques. Et du coup, on suit comment la biodiversité évolue.
À Camaret aussi ?
Non, là, c'est dans le port de Brest.
Brest.
Ouais,
okay.
Sur le polder EMR. et autrement, moi, j'ai la chance, c'est qu'en fait... Je suis impliqué dans plein de projets de recherche. Donc, mon emprise géographique, ça va en gros du Pays Basque jusqu'au sud de l'Irlande.
Ah oui ?
Ouais, avec un focus, certes, pour la Bretagne, mais c'est aussi large que ça.
Et dans l'ensemble, dans ce que vous étudiez, dans les sites que vous étudiez, ceux que vous suivez depuis longtemps, vous diriez que ça prolifère ou que ça se réduit plutôt la biodiversité ?
Alors, ça va dépendre. En fait, c'est vraiment au cas par cas. Et c'est très compliqué de vraiment dire qu'il y a une espèce qui prolifère, etc. Il y a des variations. Il y a des espèces, par exemple, non indigènes qui vont arriver dans un habitat. Leur abondance, au début, elles sont détectées, l'abondance est correcte, et puis d'un coup, ça explose, ça devient invasif. En effet, il y a quelques espèces qui peuvent être comme ça. Je pense notamment, par exemple, à la crépidule.
Ah bah oui, la fameuse.
Voilà, la fameuse.
Avec sa forme de berceau.
Exactement, qui a quand même colonisé des très grandes surfaces sur la façade atlantique. Maintenant, qui diminue un petit peu. Après, il y en a d'autres. En fait, c'est cyclique. Ça va dépendre de l'environnement. Donc, par exemple, le recrutement chez beaucoup d'animaux, notamment qui ont un cycle qu'on appelle bentopélagique. Ça veut dire que les larves vont se retrouver dans la masse d'eau, va voguer au gré des courants
pélagique,
et des vents.
C'est au-dessus du Baltique,
c'est ça. C'est ça, exactement. Et ensuite, lorsque la larve est suffisamment grande, elle va, ce qu'on appelle, être recrutée sur le fond pour se métamorphoser et devenir soit un ver, soit un crabe, etc. Eh ben, on peut imaginer que si des crabes vivent sur une station et qu'une année exceptionnelle fait que les vents amènent les larves à un endroit autre, eh ben, peut-être que l'espèce va disparaître pendant 2-3 ans. Puis ensuite, elle reviendra, etc. Donc c'est très variable et c'est difficile en fait, vraiment d'émettre des choses. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'en effet, il y a quelques espèces d'affinité plus sud qui remontent. Je pense notamment à un nudibranche, Felimare cantabrica, qui est super joli. Il fait 5-6 cm de long. C'est un bleu profond, bleu pétrole.
C'est quoi ? C'est à quelle forme, un nudibranche ?
Alors, c'est une sorte de mollusque, comme une limace.
Ouais.
Voilà, c'est une limace avec un petit panache de branchies à l'arrière. Mais c'est comme les limaces du jardin, si ce n'est que c'est beaucoup plus coloré. C'est ce bleu avec des lignes jaunes. C'est magnifique. Elle n'était pas du tout vue avant en Bretagne. Et de par le changement climatique, il y a quand même certaines espèces comme celle-ci qui arrivent à remonter. Parce qu'en fait, elles trouvent leur nourriture. Les larves arrivent à survivre maintenant aux hivers, etc. Donc voilà, ça arrive petit à petit.
Donc ça n'a pas de sens de demander combien il y a de bêtes à peu près dans une carotte. C'est pareil, ça dépend des sites.
Ouais, exactement.
J'imagine.
Je vais commencer à croire que je suis un peu trop évasif.
Mais en fait, en effet,
ça dépend. Donc par exemple, si on va dans une vase, où il y a donc il y a beaucoup de matière organique.
Une vase de porc, par exemple.
Par exemple, on peut imaginer une vase de porc. Mm-hmm. C'est très vite anoxique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'oxygène disparaît. Parce qu'en fait, la matière organique va se déposer. Il y a des bactéries et de la faune qui va consommer cette matière organique. Mais pour consommer et dégrader cette matière organique, il faut quoi ? De l'oxygène. Et plus il y a de la matière organique, plus sa consommation est importante, mais moins il y a d'oxygène. Et du coup, en fait, c'est des environnements assez pauvres. C'est des bêtes très particulières qui arrivent à vivre dans ces vases anoxiques. Donc là, il pourrait même y avoir sur une surface très faible, d'un gros tuyau de PVC, c'est même pas 10 espèces. 3 à 6 espèces. Par contre, à l'inverse, dans la rade de Brest, dans les bancs de Merle, là, sur 0,1 m², on a facilement 100, 120, 140 espèces. De macrofaune. Ouais, ça dépend.
Donc
ça dépend
beaucoup plus de travail.
Exactement, exactement.
Les taxonomistes, malheureusement, ils disparaissent un peu, c'est ça ? Enfin, je crois que c'est un métier qui a du mal à se maintenir.
En fait, il y a longtemps, donc c'était un métier qui était très utilisé parce que c'était la seule façon de reconnaître les animaux. Ensuite est arrivée la génétique où on a cru qu'en fait ça allait pouvoir remplacer ça et de manière plus rapide. Sauf qu'en fait avec la génétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on obtient des séquences où on n'arrive pas forcément à assigner de nom. Et donc ça en soi c'est pas très grave. On pourrait se dire j'ai une séquence, je sais que ça appartient au groupe des crevettes. Voilà, c'est une séquence qui appartient à une crevette et puis j'ai 10 séquences donc je sais que j'ai 10 espèces. Sauf qu'en fait, au sein des crevettes, il y en a qui ont des écologies différentes. Certaines sont, par exemple, vont faire des galeries. D'autres vont pas faire de galeries du tout, elles vont nager. Et donc, si on regarde en termes de fonction, il y a toute une branche de l'écologie, c'est comprendre en fait la fonction écologique d'un habitat. Et ben en fait, une crevette qui fait une galerie, elle a une fonction totalement différente d'une crevette qui nage. En fait, une crevette qui fait une galerie, elle va oxygéner le sédiment et donc elle apporte de l'oxygène en profondeur, ce qui dégrade bien, de manière bien plus importante la matière organique, par exemple. Chose qui est totalement différente d'une crevette qui va nager et qui va prédater sur certaines choses, d'autres choses.
Et ça, la génétique ne le dit pas. Enfin, c'est la même, comment dire.
Ouais. Parce qu'en fait, la génétique, ce qu'elle nous donne, c'est une séquence dans un habitat, mais ça ne nous donne aucune information sur la morphologie. Par exemple, si je prends des polychètes, y en a des filtreurs, il y en a des prédateurs, il y en a des parasites. Et ça, en fait, ce n'est pas la génétique qui va nous le dire, c'est le fait de regarder la bête. Est-ce qu'elle a des mâchoires ou est-ce qu'elle a un panache branchial qui lui permet de filtrer l'eau? D'ailleurs, où est-ce qu'on la trouve? Parce que la génétique, si ça nous prend de l'eau ou juste du sédiment qu'on broie et qu'on met dans le séquenceur, en fait, ça ne nous donne aucune information sur où était la bête. Un parasite, quand on l'a sous la binoculaire, on voit qu'il est dans son hôte.
Ouais,
donc là, ça donne cette information-là.
Bah oui.
Donc
oui.
Ça, on ne l'a pas. Donc en fait, maintenant, il y a une grosse prise de conscience, et ce, depuis, on va dire, depuis les années 2000, c'est qu'en fait, les taxonomistes et les généticiens travaillent quand même ensemble. Parce qu'en fait, les deux sont complémentaires pour parler de la biodiversité.
Alors, le taxonomiste, quand il trouve une bête, qu'est-ce qu'il regarde pour la classer?
Alors, en fait, du coup, votre question est hyper intéressante parce qu'il y a deux choses. Il y a le taxonomiste naturaliste comme moi, où voilà, on récolte des échantillons, on a nos bêtes, on les regarde, et donc pour mettre un nom dessus, on utilise des clés d'identification. Donc c'est très simple, hein, ça peut être présence Dieu ou pas, si j'en ai, je suis la clé, etc., etc. Et petit à petit, la clé s'affine, on regarde des critères de plus en plus fins et ça nous amène à l'espèce. D'autres taxonomistes, bien plus spécialisés, si jamais il y a un doute sur une espèce, ils vont la regarder, l'analyser un peu plus précisément jusqu'à obtenir suffisamment d'arguments potentiellement pour dire qu'elle est nouvelle pour la science. Et là, ça change d'autres choses. Ça veut dire que dans la littérature, elle n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il faut la décrire, publier, mettre dans un contexte de l'arbre du vivant. Donc ça veut dire trouver sa place dans l'arbre du vivant. Donc,
là, on ne s'aide pas des généticiens, on ne demande pas l'aide des généticiens.
Ah si, de plus en plus. Là, justement, pour aider la génétique qui agit comme un outil, c'est qu'en plus de la morphologie, on va utiliser la génétique pour voir les plus proches parents et pouvoir la ranger dans l'arbre du vivant vraiment à sa place, la place la plus précise. Mais des fois, ça ne colle pas. Des fois, en fait, il y a des animaux, grâce à la génétique, on se rend compte, mais en fait, on les avait mis tous dans le même tiroir, là, tous dans la même famille, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas, il y a deux clades très différenciées. Les clades, en fait, c'est des groupes d'entités qui sont dans les arbres réalisés à partir de la génétique. Et bien, des fois, en fait, on est obligé de réorganiser tout ça.
Donc, des fois,
en fait, il y a des nouvelles familles, des nouveaux genres qui sont obligés d'être érigés pour pouvoir réorganiser tout ça.
On pensait avoir le bon rangement et on ne l'a pas. Et on ne peut pas s'amuser à les faire se reproduire pour voir s'ils sont interféconds, c'est ça? Pour voir si c'est des espèces différentes ou pas?
Alors, pour certaines, on peut le faire parce qu'il y a la connaissance et le savoir-faire aussi, parce que c'est un certain savoir-faire de garder des animaux en stabulation, dans des laboratoires.
Là, on parle de stabulation pour des vers aussi.
Exactement,
là, c'est
exactement.
Marrant, des étables à vers.
On pourrait imaginer
c'est ça.
C'est un peu ça, en fait, certains laboratoires, on imagine tout un pan de mur avec toute une série d'aquariums où on garde à certaines températures différentes, etc., pour maîtriser le cycle de reproduction. Malheureusement, il y a tellement d'espèces que c'est impossible à faire sur tous les organismes vivants. Du coup, en fait, grâce à la génétique, on va bien plus vite. C'est qu'en fait, grâce aux analyses, on peut savoir, en sélectionnant le bon gène, savoir si oui ou non, ils seront interféconds. Après, ça n'empêche pas que des fois, il y a des hybrides, comme par exemple les moules. Il y a une moule gallo-provincialis, celle qui est plutôt méditerranéenne, et la Mytilus edulis, plutôt la moule atlantique. En réalité, il y a une zone d'hybridation entre ces deux espèces qui va du Portugal jusqu'au Pays de Galles.
Il nous reste juste 2 minutes pour parler des polychètes. Les fameux... Les vers. Donc c'est les vers, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, les annélides polychètes. Donc en fait, on dit souvent la formule contractée, polychète. En fait, c'est en réalité des annélides polychètes. Pourquoi? En fait, pour les décrire un peu plus précisément, les annélides, c'est le phylum, et ça correspond à l'ensemble des animaux vermiformes qui ont des annelures, un peu comme un collier de perles. Au sein de ce phylum, il y a le groupe des polychètes. Polychètes, ça veut dire qu'ils disposent de plusieurs soies sur chacune des annelures, à différencier des achètes, qui n'ont aucune soie sur les annelures, des oligochètes, qui ont juste quelques soies. Et donc, au sein de ces annélides poliquettes, il y a toute une diversité. Il y a à peu près 2000 espèces, à peu près dans le monde, pour l'instant décrites.
Qui sont toujours dans l'eau, toujours en mer,
non? Toujours dans l'eau, ouais. Pas toujours en mer. Mm-hmm. Certaines espèces sont dans le milieu d'eau douce, mais grossièrement, ça a colonisé l'ensemble des océans. Enfin, ça a même colonisé l'ensemble des océans du monde entier.
Et pourquoi c'est intéressant de les différencier, justement?
Alors, ce qui est assez drôle, c'est que ce soit la morphologie ou la génétique, déjà, les annélides poliquettes sont séparées en deux grands groupes, ce qu'on appelle les errantes, donc celles qui sont mobiles, à différencier des sédentaires, celles qui vivent dans un tube ou dans une galerie. Et au sein de chacun des groupes, il y a toute une diversité de formes. Déjà, on imagine bien que s'il y en a qui bougent sur le sédiment ou même qui sont capables de nager, ils n'auront pas du tout la même forme que ceux qui vivent dans un tube. Mais tout ça va en découler aussi des habitats différents. Donc des stratégies d'alimentation différentes, des stratégies de reproduction différentes. C'est peut-être anecdotique, mais moi je trouve ça incroyable. Il y a certains poliquettes qui ont la capacité de se reproduire de manière asexuée, de créer en gros des clones. Donc je vous parlais d'annelure, comme un collier de perles. Et ben certains sont capables de se casser en tellement de petits bouts qu'à partir d'une seule annelure, ils sont capables de refaire un individu entier.
Donc c'est pas une légende ce qu'on non. raconte. C'est peut-être pas vrai pour les vers de terre, mais en tout cas,
exactement, c'est incroyable. Ah ouais. Et en tout cas, tous, quasiment tous, ont la capacité, si un poisson vient dévorer ce qu'on appelle le pygidium, la partie postérieure du ver, en fait, quasiment tous ont cette capacité à reformer une partie postérieure. Et d'autres ont même la capacité de refaire une tête s'ils sont coupés.
Donc rien que pour les super-pouvoirs des poliquettes, c'est intéressant de les étudier, quoi. Et puis sinon, pour voir l'état d'un milieu, comme on a dit tout à l'heure.
Exactement, ouais. Parce que du coup, comme ils colonisent toute une diversité d'habitats, en fait, déjà, ça peut être caractéristique d'habitats, mais certains vont être plus ou moins sensibles à des pollutions. Donc en effet, on trouve dans l'établissement des indices de bon état écologique, dans les listes d'espèces qui permettent d'établir un indice, une note, en fait, va y avoir des poliquettes. Et donc, certains sont très sensibles à des pollutions. Donc là, c'est un bon état écologique. Et d'autres sont totalement polluotolérants. Et donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Eh bien, merci beaucoup, Gabin Droual. Je crois qu'il faudra encore refaire des émissions, peut-être plus sur les poliquettes comme star. Merci. Dans un instant, c'est le rendez-vous des marottes, les recommandations des bénévoles